Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour traiter un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, c'est l'actualité locale qui sera mise à l'honneur puisqu'on parlera de la réouverture de la chapelle de la Grave. Et pour parler de cette réouverture qui est déjà un grand succès, j'ai le plaisir de recevoir Francis Grasse, adjoint au maire chargé de la culture et du mécénat. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et David Madec, conservateur des monuments de la ville de Toulouse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Cela fait une dizaine de jours que le Dôme de la Grave a ouvert de nouveau ses portes au public après une longue période de travaux. Francis Grasse, j'imagine que c'est une fierté d'enfin réouvrir.
À la fois, c'est une fierté, un aboutissement, parce qu'au fond, on avait engagé ce projet en 2015. Donc, vous voyez, il y a forcément du temps pour y arriver, à la fois du temps, un investissement. Et ce temps, ce n'est pas seulement le temps de la décision, c'est aussi le temps du financement, c'est aussi le temps de la conception, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la crise Covid au milieu qui a sensiblement ralenti tous les chantiers, comme l'on sait. Mais enfin, on est très heureux. Et je crois que aussi les Toulousains sont heureux parce que c'est la réappropriation d'un lieu qui est évidemment très visible, ça chacun le sait, mais aussi qui parle beaucoup aux Toulousains parce que tous les jours, vous avez des gens qui disent « je suis né à la Grave » ou « j'ai accouché à la Grave » pour les femmes. Bon, voilà, c'est un lieu qui a vraiment un sens très particulier pour les Toulousains.
David Madec, cette restauration, elle était indispensable, nécessaire?
Oui, comme l'a dit Francis Grasse, 7 ans de travaux, 7 ans d'études préalables, de travaux menés sur cette chapelle pour retrouver une chapelle dans un état le plus proche possible de ce qu'elle a été. L'idée de ces travaux, c'était d'abord, Francis Grasse l'a dit, dès 2015, de faire en sorte que le clos couvert soit assuré sur ce bâtiment, que le bâtiment ne prenne plus l'eau, qui est un des éléments de protection principale, et ensuite de retrouver le lustre de cette chapelle. Alors un lustre tout à fait particulier, puisque dans sa structure, c'est une chapelle dessinée au XVIIIe siècle, mais réinventée tout au long des étapes du chantier pour être réellement terminé dans les années 1960-1970. Et donc il a fallu retrouver toute cette stratigraphie, c'est tout le travail mené par l'architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Yves Caillot, pour la ville de Toulouse. Et retrouver cette stratigraphie et retrouver toutes les étapes de la restauration pour former l'ensemble que les Toulousains peuvent désormais admirer.
Francis Grasse, oui. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours des visiteurs ou des élus qui sont venus voir ce dôme, cette chapelle de la Grave?
J'ai à la fois des retours de gens qui sont émerveillés, évidemment, des collègues élus, bien entendu, et surtout beaucoup de gens qui disent « je n'y suis pas encore allé ».
Donc, il y a une vraie attente autour.
Oui, bien sûr, et il y a une véritable attente, ça veut dire que l'événement a été repéré. C'est clair, la preuve, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, puisque au fur et à mesure, je rappellerai le centre d'engagement de 2015, c'est pas que la chapelle de la Grave. En fait, la chapelle de la Grave, c'est une étape, une première étape. Il y en a eu quelques autres avant, avec l'ouverture de la traversée vers le jardin Raymond VI. Mais je serai amené à vous dire peut-être tout à l'heure le sens global de notre action sur la Grave pour le futur. Mais les Toulousains ont envie d'y aller, hein, et je pense que les gens, évidemment, avaient peur d'une trop grande affluence aux Journées du patrimoine, et je crois qu'on a eu
plus de 12 600 personnes.
Donc, la première fois qu'on l'avait ouverte, ça devait être en 2018 ou 2017, je ne sais plus. On a vu des chiffres impressionnants, ce qui montrait l'attente. Donc, aujourd'hui, maintenant, il s'agit que les Toulousains et les non-Toulousains, évidemment, les visiteurs qui sont de passage à Toulouse, se réapproprient le lieu, c'est-à-dire qu'on ait le sentiment qu'on peut aller là-bas pour la chapelle, alors qu'avant, on passait devant, ou on restait plutôt côté Saint-Pierre, en voyant le beau panorama, mais en pensant que c'était fermé. Donc, et évidemment, il faut maintenant que le lieu vive. Et on est très confiant pour ça, parce que je crois que le bouche à oreille est excellent, évidemment. Et la restauration qui a été faite est absolument magnifique. Moi, je suis vraiment admiratif du travail de tous ces artisans d'art, enfin, ou artistes, on sait entre l'artiste et l'artisan, on ne sait plus. Mais aussi, je dois dire, la conception, le principe muséographique est très original, qui a su conserver, comment dire, la nature historique du lieu, tout en le modernisant au sens d'une médiation où il y a de la vidéo, il y a du numérique, évidemment. Tout ça est fait de manière intelligente, discrète, mais très efficace.
Justement, en plus, on le disait, ce dôme de la Grave, beaucoup de personnes, beaucoup de Toulousains y sont nés, mais c'est aussi l'image de carte postale de Toulouse, David Madec.
Oui, moi qui ne suis pas Toulousain ou tout fraîchement Toulousain, la première chose que l'on m'ait dit sur la Grave, c'est que c'était le monument le plus photographié de Toulouse. Et effectivement, il ne se passe pas une journée sans qu'on voit ce dôme en photo pour parfois tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment l'image d'Épinal de Toulouse, en quelque sorte, la Garonne, la chapelle de la Grave. Et les Toulousains s'en saisissent petit à petit. Francis Grasse l'a dit, plus de 12 000 visiteurs pour les Journées du Patrimoine. Et le week-end dernier, plus de 1 000 visiteurs sont venus visiter le monument. Donc sont plutôt des signes, de très bons signes quant à la fréquentation et à l'intérêt des Toulousains sur ce monument.
Francis Grasse, est-ce que le résultat final il correspond à vos attentes ou est-ce que vous avez dû modifier un petit peu vos attentes avec les travaux qui se sont éternisés, on le disait, 7 ans de travaux?
Non, je dois dire que par rapport aux intentions d'origine, le résultat, je dirais, non seulement conforme, je dirais même meilleur qu'attendu. Je pense que ça, le travail a bonifié le lieu. Bien sûr, il a été restauré dans ses parties, on va dire, artistiques ou architecturales, parce que vous évoquiez, David, les voûtes et différentes parties qui étaient en très très mauvais état. Donc il y a eu un travail de reconstitution physique, on va dire, hein, au-delà de la restauration artistique. Le bâtiment est maintenant en très bon état, alors qu'il était en relativement mauvais état. Et puis, on donne à voir quelque chose qui est formidable. Alors, je fais partie des chanceux qui ont pu, au fur et à mesure, venir dans le chantier, d'être monté tout en haut dans les échafaudages où j'ai vu de près les gens travailler avec quelques détails d'architecture ou de chapiteaux ou de peinture. Et franchement, c'est magnifique. Je crois que non, c'est au-delà de ce qu'on voulait. Et après, si vous voulez, le but de la Grave, il faut savoir quand on a signé cette convention avec l'hôpital en 2015, l'idée, c'est de construire avec l'hôpital qui est propriétaire. Il faut rappeler que l'hôpital est propriétaire, le CHU, propriétaire de la Grave et de l'ensemble du site, qui fait plusieurs hectares. Et l'idée pour l'hôpital, c'est de pouvoir transférer à terme une gestion qui aujourd'hui, par lui, mais enfin, il ne gère pas l'hôpital. Et on va dire qu'il conservait plus ou moins, on va dire ça comme ça, poliment. Mais c'est rouvrir ce site. Alors, la première étape, finalement, ça n'a pas été la chapelle, ça a été l'ouverture de cette traversée vers le jardin Raymond VI, vers les abattoirs, si vous voulez, avec des aménagements de verdure et un peu paysagistes. Ça a été la première étape dès 2017. La deuxième étape, ça a été quand même la création d'un lieu médical et hospitalier qui est dans l'aile, qui est le long de cette traversée, qui était souhaité par l'hôpital et aussi souhaité par le maire de Toulouse. Je crois que les habitants du quartier, il y a toujours eu une volonté de maintenir une activité médicale. Elle est en place depuis 2018, si je ne me trompe. Et puis après, la troisième étape, c'est l'ouverture après restauration de la chapelle. Mais il y a encore une quatrième étape, alors qu'elle est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe également, et elle reste encore à affiner et à réaliser, c'est tout le site de la Grave. Parce que tout le site de la Grave, vous avez deux parties. Vous avez une partie historique, c'est derrière la chapelle. Vous avez cet ensemble de cours qui est absolument une petite merveille, cachée des Toulousains. Il y a des morceaux au fond qui sont beaucoup plus récents, qui n'ont pas beaucoup de caractère historique. Et puis vous êtes toute une partie vers les allées Charles de Fitte, qui n'ont pas de caractère, évidemment, par rapport à l'histoire, qui sont un ensemble hétéroclite, qui a probablement une vocation d'aménagement pour le quartier. C'est cet ensemble qu'il faut concevoir. Alors nous, pour la partie historique, nous avons le projet, j'aurais même dire l'ambition, d'en faire un lieu de culture qui reste à, à concevoir techniquement, parce que, comme vous le savez peut-être, ce lieu est aussi inondable, parce qu'on est proche de la Garonne, donc on a des complexités techniques liées à ce qu'on appelle le plan de prévention des inondations. Bon, voilà, avec plusieurs idées, hein, force. D'abord, on voudrait y faire des lieux d'exposition, c'est une idée générale. Alors, si vous me demandez où, je vous dirai, je ne sais pas, pas encore. À la fois des lieux d'exposition de grande envergure, et y compris des expositions à caractère plus local ou régional, parce qu'actuellement, il se trouve qu'à Toulouse, nous manquons de lieux d'exposition. Mmh. On en a quelques-uns, heureusement, mais on n'a pas de lieu intermédiaire. Et d'ailleurs, ça me permettra d'évoquer la salle du réfectoire et l'expo que vous évoquiez sur l'architecture. On a aussi l'idée d'y mettre le centre de ce qu'on appelle le CIAP. Alors, c'est un sigle, j'aime pas trop les sigles. C'est le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. C'est un lieu que nous devons réaliser, puisque nous sommes ville d'art et d'histoire, donc il y a une sorte d'engagement de le faire. Donc on pense à cet endroit parce qu'on est à la fois au bord de Garonne, au cœur d'un quartier ancien, non pas le quartier de l'époque romaine, mais plus tard, mais néanmoins un quartier très central de Toulouse, le quartier Saint-Cyprien. Voilà, puis au-delà de ça, y a une idée très importante, c'est que cet ensemble actuel de l'hôpital de la Grave, la partie historique, que ça devienne non pas un lieu fermé comme ça l'était, hein, bien sûr, mais un lieu ouvert sur le quartier. Lieu culturel ne veut pas dire lieu fermé, on ne va pas faire un musée, c'est un lieu où on puisse circuler, où il puisse y avoir aussi des activités, commerce ou économie, que ça soit vivant, et que ça, le quartier se réapproprie cet espace. C'est vraiment ça l'idée force. Mais ça, encore une fois, on est dans le stade de la préconception. Après, il faudra le financer. Et puis, il faudra surmonter tous les volets d'études techniques, de concours. Voilà, tous les process qui sont souvent particulièrement longs et complexes.
David Madec, l'idée, c'est aussi d'attirer de nouveaux publics avec cette restauration des non-initiés à l'art, l'histoire et la religion.
Oui, bien sûr, la restauration de la Grave, comme l'a souligné Francis Grasse, a été imaginée avec une idée de respecter ce lieu de chapelle et de glisser dans les interstices de cette restauration des éléments de médiation pour permettre à chacun de se saisir de ce qu'était cette chapelle et d'une partie de l'histoire de Toulouse. Alors, ce sont évidemment des tables tactiles qui permettent de découvrir l'histoire de la chapelle, l'histoire de l'hôpital, puisque cette chapelle est intimement liée à l'histoire de l'hôpital, mais aussi les éléments sur la restauration et enfin le parcours de visite de ce qui n'est pas ouvert au public. Mais c'est aussi un niveau de lecture qui est permis par des panneaux glissés derrière les piles de la chapelle, et ensuite des écrans qui permettent de découvrir avec travers le jeu d'acteurs, en quelque sorte, le parcours de quelques résidents de cette chapelle, de personnes qui ont pu habiter dans cette chapelle, et de montrer ainsi la vie qui était celle de cette chapelle. Et enfin, le dernier interstice dans lequel s'est glissé un parcours de médiation, c'est assez séduisant, sont les confessionnaux qui ont été transformés en salles vidéo. Je vous invite à y aller rien que pour voir ça.
Rien que ça, oui.
Je vous propose qu'on fasse une première petite pause musicale et on revient dans moins de 4 minutes.
Toutes ces idées Fais-le. Parce que t'as tout dedans, parce que t'as mille projets, que le bonheur t'attend, comme t'as pas idée. Crois-moi. Parce que t'es incroyable, parce que t'es magnifique, t'es pas raisonnable, t'es uniquement toi. Écoute ton heure arrivée, tout ce qui t'attend au bout de toutes ces idées. Viens, c'est maintenant.
Présence à Auch 89.6.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église, toujours avec Francis Grasse, adjoint au maire chargé de la culture et du mécénat, et David Madec, conservateur des monuments de la ville de Toulouse. Pour parler de cette réouverture et cette restauration de la chapelle de la Grave, David Madec, concrètement, sans trop rentrer dans les détails que les auditeurs ne maîtriseraient pas, qu'est-ce qui a été restauré pendant ces 7 années?
Alors, il faut imaginer que tout a été restauré. Il faut prendre le bâtiment dans son intégralité, c'est-à-dire que les murs, les maçonneries extérieures, les maçonneries intérieures ont été reprises. Comme le soulignait Francis Grasse, des éléments de maçonnerie et de couverture ont été repris, avec des zones qui étaient parfois totalement détruites et la redécouverte de techniques pour reconstruire des voûtes. Mais sont aussi tous les éléments de peinture, de vitrail, de mobilier qui ont été restaurés. Donc un ensemble global qui a été restauré, des ouvriers, des maîtres apprentis qui ont travaillé sur ce chantier de manière particulièrement sensible depuis le début. C'est la reprise de la totalité du monument qui a été mise en œuvre.
Est-ce que les techniques d'époque ont été reprises ou c'est des techniques actuelles combinées à des techniques d'époque qui ont permis cette restauration?
Les deux. Les deux parce que les techniques d'époque ont permis de retrouver des éléments de structure que l'on connaît encore aujourd'hui. Et en même temps, des matériaux nouveaux ont pu être intégrés. Il faut imaginer qu'un chantier jusqu'au début du 19e siècle, on ne travaille pas l'hiver parce qu'il gèle. Aujourd'hui, on continue à travailler tout au long de l'hiver. Il y a évidemment des techniques, notamment de protection des ouvriers qui n'existaient pas au moment de la construction de la chapelle. Donc, c'est un alliage d'un grand classicisme dans le geste et d'une grande modernité dans la technique qui a été mise en œuvre pour permettre cette restauration.
Francis Grasse, combien d'ouvriers ont travaillé sur cette restauration? Est-ce que c'est des ouvriers qui viennent de toute la région? Vous avez fait appel à...
Alors d'abord, j'ai pas le chiffre exact, peut-être que David vous l'avez, mais je dirais que pour avoir vu le chantier, de manière instantanée, vous en avez plusieurs dizaines. Instantané, ce qui veut dire que comme ils se sont renouvelés selon les métiers, parce qu'on a fait d'abord de la maçonnerie, des sols, des consolidations très techniques, puis après des travaux plus artisanaux ou plus artistiques, ou de sculpture ou de peinture, pour citer, sans parler des mobiliers, où là on n'est plus dans l'ébénisterie ou dans le travail du bois. Donc au total, on doit être peut-être autour de la centaine, j'en sais rien, mais si vous voulez le chiffre, on pourra le retrouver bien sûr. Ce que je crois, alors d'où viennent-ils? D'abord, on est évidemment, on est à la mairie de Toulouse, donc on est soumis au marché public, donc il y a des processus d'appel d'offres. On est sous l'égide, vous l'avez dit, d'un architecte en chef des monuments historiques, donc il y a une exigence de technicité extrême. Donc dans ces sujets-là, c'est la technicité qui prime. Après, qu'ils viennent de tel ou tel endroit, finalement, c'est pas un sujet, mais il se trouve qu'il y a, sur le plan régional, beaucoup de... souvent, c'est des petites entreprises, pour ne pas dire des personnes individuelles, qui ont participé. Donc, on a la chance d'avoir sur la région beaucoup d'artisans d'art ou d'ouvriers très spécialisés. Parce que, vous le savez sans doute, la région Occitanie est une région extrêmement dotée en monuments, vestiges, œuvres diverses et variées. Mais Toulouse, pas mal aussi, parce qu'on a 200 monuments inscrits ou classés, quoi, je crois, de mémoire.
David Madec, on parlait tout à l'heure avec Francis Grasse des difficultés liées à la Garonne, qui est à proximité. Quelles sont les autres difficultés que vous avez eues?
Alors sur ce chantier, la difficulté majeure a été évidemment le Covid, avec des difficultés de travaux, des arrêts de chantier, des reprises de chantier, qui sont toujours des moments très difficiles. Un chantier, quand il est lancé, il fonctionne à un rythme. Quand on l'arrête, il faut retrouver ce rythme avant de pouvoir travailler. Donc sont des choses que tous vos auditeurs ont connues ces dernières années. Il y a évidemment aussi la spécificité du lieu. C'est un lieu qui était soumis aux inondations, et donc la structure même du bâtiment était à observer de ce point de vue-là. Pour les visiteurs qui ont eu la chance de visiter la Grave, et pour ceux qui le feront demain, ils verront le niveau des crues présentées dans le monument. Et c'est extrêmement impressionnant. Alors, il y a d'ailleurs une petite vidéo qui présente une simulation de crue dans la Grave. C'est extrêmement impressionnant. Donc, c'est des sujets qui ont été à traiter. Ensuite, un des sujets qui est important dans un chantier de restauration de la sorte, c'est que la découverte de ce que l'on fait au fur et à mesure de la restauration entraîne une évolution du projet. Comme le soulignait Francis Grasse, le résultat est au-delà des attentes, et notamment, je crois, sur un élément particulier qui sont les peintures murales. C'est une chapelle qui a une spécificité, c'est que quand vous entrez, vous voyez du marbre, notamment sur les colonnes. Et la réalité n'est pas celle-là, c'est un trompe-l'œil sur deux niveaux, au rez-de-chaussée et dans le tambour du bâtiment, des marbres de couleur, et c'est extrêmement impressionnant, extrêmement réussi. Mais ça nécessite un temps très long. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas pleinement quantifiable, comme on peut construire dans une construction moderne, en tout cas.
Vous le disiez, c'est une chapelle qui a été dégradée avec le temps, les événements climatiques. Comment vous avez réussi à retrouver cette précision, en tout cas?
Alors, c'est tout le travail d'études préalables. Mmh. Tout à l'heure, on évoquait la durée d'un chantier, 7 ans entre le début de ce chantier et la réalisation, l'ouverture au public. Une partie de ce temps est consacrée à une étude archéologique, scientifique du bâtiment. Mmh. Les données que l'on peut connaître sur le bâtiment en termes de relevés archéologiques, ce que l'on peut trouver dans les archives sur la connaissance que l'on a des commandes qui ont été passées par le passé. Tout ça, c'est le travail mené par l'architecte en chef des monuments historiques. Et c'est un travail de fourmi qui est très précieux justement pour la restauration, qui nous amène à construire un projet de restauration à partir de ce que l'on connaît du bâtiment. Ce projet s'enrichit au fur et à mesure des découvertes archéologiques in situ, au fur et à mesure, quand on monte le grand échafaudage que Francis Grasse soulignait et qu'il a eu la chance d'escalader, on découvre en haut de l'échafaudage des éléments de peinture que l'on ne connaissait pas au début du chantier puisqu'on n'était pas monté jusque-là. Donc c'est un processus continu de travail et de recherche scientifique qui permet d'aboutir à ce que les visiteurs voient aujourd'hui.
Et d'ailleurs, pendant toutes ces années-là, parce qu'on a cité M. Caillot, là, qui est l'architecte en chef, mais il y a deux personnes qui ont contribué à la mairie, qui est l'architecte de la mairie, Lydia Nespez, et puis Marie Bonabel, qui est la conservatrice des Jacobins, et qui était missionnée pour la partie conception. Et maintenant, au niveau de l'ouverture, c'est David qui est en charge maintenant de garder ce lieu parmi d'autres.
Vous avez vraiment voulu que cette restauration elle soit accessible à tous. Vous parliez de vidéos, de parcours pour vraiment découvrir tous les détails de cette chapelle de la Grave. C'était important pour vous que ce soit accessible à tous.
Oui, d'abord c'est important pour la chapelle, mais je dirais c'est important en général parce que la finalité de la culture, telle que je la conçois, c'est justement qu'on puisse toucher un maximum de gens. Si on est pour rester entre spécialistes ou d'archéologie ou d'histoire, c'est formidable, c'est un puits énorme, mais le but c'est de toucher les gens, de les intéresser, d'être pédagogique, et c'est ce que permettent aujourd'hui les techniques. Elles ont ce grand avantage, c'est qu'elles rendent vivants. Et on s'aperçoit que dans les lieux culturels, qu'ils soient des musées, qu'ils soient des lieux de culture scientifique, puisqu'on en a beaucoup à Toulouse, c'est ce côté vivant, ce côté interactif qui fait qu'on accède à cette connaissance de manière simple, de manière... Et là, on a l'occasion, bien sûr, de voir, parce que l'impression, l'émotion, elle vient de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Mais pour raconter une histoire qui est très longue, parce qu'on démarre au XIIe siècle, et puis il y a eu tellement d'épisodes à la fois pour le site de la Grave, parce que je rappelle que l'histoire qu'on raconte à la chapelle, c'est pas seulement l'histoire de la chapelle. On raconte l'histoire de l'hôpital, de ce qu'est l'hôpital aujourd'hui, ce qu'il est devenu. Donc c'est une histoire beaucoup plus longue que celle de la chapelle, parce que, comme on l'a dit, c'est le XVIIIe. Et au fond, c'est une façon de parler de l'histoire du quartier Saint-Cyprien. Donc, tout ça, on le raconte avec des plans, des images, des témoignages comme ceux qu'on a dans les confessionnaux, des gens qui racontent. Donc, tout ceci, par petites touches, permet de s'imprégner. Et ça, c'est une dimension générale qu'on a à la Grave, avec le meilleur des techniques d'aujourd'hui, mais qu'on souhaite avoir partout.
David Madec, vous avez aussi voulu la rendre accessible pour les personnes à mobilité réduite, par exemple?
Oui, l'idée, évidemment, comme le souligne Francis Grasse, c'est bien que ce monument, comme les monuments et musées de la ville, soit accessible au plus grand nombre. Et donc, il faut que l'on embrasse tous les handicaps. Alors, c'est pour nous, évidemment, un challenge supplémentaire, mais c'est aussi une obligation vis-à-vis de nos visiteurs. Et c'est un enrichissement pour tous les visiteurs. Quand on rend accessible aux personnes à mobilité réduite, ça veut dire qu'on rend accessible aussi à d'autres visiteurs. Quand on a une réflexion sur le renforcement de l'accessibilité, c'est tous les publics qui en bénéficient. Et aujourd'hui, quand on fait une visite, on a le droit d'être un peu fatigué, on a le droit d'être plus âgé. Et donc, sans forcément souffrir d'un handicap, on peut dépasser ça grâce à ces processus d'accessibilité mis en œuvre dans chacun de ces monuments.
J'aimerais aussi vous entendre sur cette exposition inédite Toulouse-sur-Garonne, maquette d'architecture et projet urbain qui est présentée au sein du réfectoire de l'hôpital jusqu'en janvier 2023.
Oui.
C'est Francis Grasse, c'est additionnel, c'est en même temps,
alors,
ça complète.
C'est additionnel, mais enfin, il y a deux idées. Alors la première, c'est quand même aussi l'idée principale, c'est profiter de l'ouverture de la Grave pour mettre un pied dans ce secteur historique. C'est-à-dire inviter les Toulousains ou les visiteurs ou les touristes à rentrer dans la grave. Donc, ce n'est pas en état, ce n'est pas encore... bon, c'est dans son... l'état qui doit dater du milieu du XXe, quoi, en gros, parce que depuis à peu près... ce milieu du XXe, il ne s'est pas fait grand-chose en matière de maintenance. Bon. Donc, l'idée, c'est que petit à petit, on rentre. Alors, bien, pour rentrer, il faut un motif. Bon, le motif, c'est que, comme on a l'intention à terme de faire des expositions à la grave, mais aussi de valoriser le patrimoine, on a choisi de faire une première exposition dans un réfectoire que l'hôpital nous met à disposition, qui a été refait de manière simple, en manière d'accueil. Donc c'est un lieu assez polyvalent, ni trop grand, ni trop petit. Et la première idée a été de parler d'architecture et surtout de se dire on est au bord de Garonne. Donc quel est le lien entre l'architecture, les projets, plus généralement entre Toulouse et sa Garonne, quoi. Et donc il se trouve que par ailleurs, ça, les Toulousains ne le savent pas, en général, c'est que nous avons aux archives municipales une collection de maquettes absolument phénoménale, mais qu'on ne montre jamais. Alors, si vous allez aux archives municipales, qui est sur le coin de Jolimont, là, les Toulousains ne savent même pas où c'est, en général, puis c'est pas très accessible, on peut en voir certaines. Les autres sont conservées. Donc là, on a sorti, finalement, pas de la naphtaline, parce que c'est pas le... ce genre de produit, mais enfin sorti du lieu de conservation, une quantité assez importante de maquettes, mais on s'est limité, parce que disons, il y a beaucoup plus, à la période 1960 à aujourd'hui. Et ces maquettes, qui ont toujours été un des moyens pour les porteurs de projets de montrer physiquement ce qu'on pouvait faire. Et donc, vous avez... des vitrines, parce qu'elles sont quand même protégées, quelques maquettes de projets très divers. Vous avez une maquette du pont Saint-Pierre, vous avez une immense maquette de Toulouse, qui est très très belle pour se repérer avec... on est plutôt dans les années 60, parce que je crois qu'il y a encore l'école vétérinaire. Donc on voit qu'on est sur une période... on voit que c'est encore peu construit. C'est vraiment une sorte de photographie, si je peux prendre ce terme. D'une époque du milieu du XXe. Vous avez des projets sur les berges de la Garonne. Alors, et ce qui est caractéristique, c'est qu'on montre des projets qui ont été réalisés et des projets qui n'ont pas été réalisés. Donc, vous avez quand même ce à quoi vous avez pu échapper éventuellement, ou ce que vous pouvez regretter éventuellement. Donc, il y a les deux. Et avec... des explications assez simples sur les différentes fonctions de la ville, qui sont des fonctions à la fois de déplacement ou de transport, des fonctions de protection, d'habitat, bien sûr, et d'animation de la ville. Et on est, alors évidemment, sur toute Toulouse, mais autour de la Garonne, si vous voulez. Donc c'est vraiment la Garonne qui est l'axe structurant depuis l'Antiquité. De toute façon, les fleuves ont toujours joué un rôle absolument majeur, comme les ports. Dans l'édification ou de la sédentarisation de l'humanité. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir cette exposition qui est là jusqu'au mois de février, début février, je crois. Elle est absolument formidable et vous découvrirez un lieu dans lequel nous allons poursuivre des expositions, puisque celle d'après, ça sera Portrait de France, si je ne m'abuse, à partir du mois aussi février ou mars. Et voilà, je n'ai plus en tête les dates, mais on en reparlera, bien sûr. Portrait de France, qui a été monté à la fois avec une association toulousaine, Tactique Collectif, et aussi, elle est labellisée par le Musée de l'Homme, je crois. Donc, et qui sera très, très intéressante. Et puis après, on a d'autres idées encore. Il y en a... Bon, on ne va pas tout vous dévoiler à l'avance.
Vous reviendrez. On va faire une deuxième pause musicale et on revient dans moins de 3 minutes.
J'en ai passé des nuits à rêver de nous, te raconter la vie comme on était fou. J'en ai chanté des mots, mais jamais pour toi. Ça sonnait faux, petit bout de moi. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans zèle, un homme sans passion. C'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans je n'ai rien gagné. Si t'es pas, 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 si t'es pas, pas là, si t'es pas, 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 si t'es pas là, si t'es pas, 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 si t'es pas, pas là, si t'es pas, 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 si t'es pas là. Petit dans mes bras, je veux pleurer d'amour et devenir fragile, trembler comme une feuille et vivre sur un fil. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans zèle, un homme sans passion, c'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagner. Si t'es pas, 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 si t'es pas, pas là, si t'es pas, 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 si t'es pas là, si t'es pas, 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 si t'es pas, pas là, si t'es pas, 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 si t'es pas là. Si t'es pas, 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 si t'es pas, pas là, si t'es pas, 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 si t'es pas là, si t'es pas, 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 si t'es pas, pas là, si t'es pas, 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 si t'es pas là.
À Super Bagnères 94.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
J'ai toujours le plaisir d'être avec Francis Grasse, adjoint au maire chargé de la culture et du mécénat, et David Madec, conservateur des monuments de la ville de Toulouse. David Madec, vous êtes aussi responsable d'autres monuments, autres que ce dôme et cette chapelle de la Grave, il y en a cinq. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ces cinq monuments ?
Oui, bien sûr. Alors, beaucoup des auditeurs en connaissent quelques-uns. La basilique Saint-Sernin, la chapelle des Carmélites, la chapelle de la Grave que nous avons évoqué, le castelet de l'ancienne prison Saint-Michel, mais aussi le monument à la gloire de la Résistance.
Vous êtes brestois d'origine, vous avez été administrateur diocésain au Panthéon. Vous êtes arrivé il y a quelques mois, en juin dernier, sur Toulouse. Concrètement, quel est votre rôle ?
Alors aujourd'hui, le rôle d'un conservateur en charge de monuments est évidemment de conserver, restaurer. C'est un travail que l'on peut mener avec l'ensemble des services de la ville et de la métropole de Toulouse. Conserver tout simplement pour faire en sorte que, comme le chantier qui a été mené à la Grave, les générations futures puissent profiter du patrimoine dont nous avons hérité. Restaurer parce que ce sont des monuments qui nécessitent continuellement de l'entretien, de la restauration permettre de leur permettre de durer. Mais l'une des autres missions, c'est évidemment de partager avec le plus grand nombre et faire en sorte que le plus grand nombre puisse avoir accès à ce patrimoine. Cet accès, c'est avant tout ouvrir, mais c'est aussi faire en sorte que le visiteur puisse découvrir. Alors, pour reprendre les termes de Vivant Denon, le premier directeur du musée du Louvre, donner comme objectif au musée du Louvre l'idée de faire en sorte que ce musée serve à édifier le plus grand nombre, faire en sorte que les gens apprennent des choses en sortant de ces monuments. Et ensuite, il évoquait la question de la délectation quand on visite ces monuments. Et c'est quelque chose que l'on a beaucoup oublié ces dernières années et que l'on doit remettre au goût du jour. Et moi, je suis très heureux quand on voit des visiteurs dans les monuments, dans les musées qui viennent se promener quasiment. On a oublié que la définition d'une galerie dans un musée, elle vient de la grande galerie du Louvre, qui servait à relier le palais du Louvre au palais des Tuileries et à abriter de la pluie. Et comme il y avait de la place, on y a accroché des œuvres d'art. Et donc cette idée de faire apprendre des choses et faire en sorte que les gens s'y trouvent bien est le cœur de ma mission, en quelque sorte.
J'imagine que vous avez de nombreux projets. Si on reprend individuellement chaque monument que vous nous avez cité, quels sont les projets pour chacun d'entre eux ?
Alors, beaucoup de projets sont encore en discussion, mais par exemple, pour la chapelle des Carmélites, l'idée est de proposer aux visiteurs un parcours de médiation qui permette de mieux apprécier les chefs-d'œuvre de peinture qui sont là, ouverts du mercredi au dimanche, gratuitement. C'est une chose incroyable. Enfin, c'est quelque chose qui, au moment où cette chapelle, quand elle a été construite, était repérée comme un des grands chefs-d'œuvre à l'égal de la chapelle Sixtine. Il faut donc s'y précipiter, c'est une chance assez incroyable. Au Castellet de la prison de l'ancienne prison Saint-Michel, on a idée évidemment d'organiser des expositions dans les semaines à venir. On proposera une exposition dossier en partenariat avec le Mémorial de la Shoah autour de Nakache, Alfred Nakache, une figure toulousaine particulièrement importante et liée à la prison Saint-Michel. Et, par exemple, pour le monument à la gloire de la Résistance, on a aussi retravaillé sur les horaires d'ouverture pour faire en sorte que ce monument soit accessible le week-end. Et c'est un monument qui se visite vraiment qui a été inventé pour le sens. Enfin, les architectes qui en sont à l'origine ont travaillé sur une question de la sensation que les visiteurs pourront avoir en le visitant. Et c'est quelque chose que l'on accompagne désormais tous les week-ends avec des médiateurs. Voilà un peu le sens des choses qui arrivent dans les semaines à venir.
Il y a un exemple que je peux citer, parce qu'il y a un monument que vous n'avez pas en charge, mais qui est aussi un des monuments, qui est le Jacobin. Mmh. C'est votre collègue Marie Bonnabel qui en est la conservatrice, où, au fond, pour illustrer ce que vous disiez, c'est comme les Jacobins sont ouverts et valorisés depuis plus longtemps que le Castellet, par exemple, qui est tout récent. En fait, il s'agit de montrer, là aussi, il y a beaucoup de dispositifs de médiation et il y a des animations. Mmh. C'est-à-dire qu'on a imaginé des opérations qui sont à la fois, quelquefois, du spectacle vivant. En ce moment, on a Piano Jacobin, pour vous donner un exemple. C'est un des grands festivals français dédiés au piano. Voilà un exemple qui marie un lieu formidable au plan du patrimoine et une action culturelle majeure, mais il y a toute l'année des animations, et l'idée, c'est que les gens viennent, découvrent, et c'est vrai que le Clos des Jacobins, là, justement, on va se promener au Clos des Jacobins, c'est vraiment cette fonction, et il s'agit qu'on ait la même chose, alors évidemment, dans des lieux plus récemment ouverts, la chapelle, la plus récente, le Castellet, qui est vraiment très récent, parce qu'on a ouvert pendant les confinements, on avait même ouvert la veille d'un reconfinement, donc on n'a pas eu de chance. Mais c'est un lieu extrêmement bien aménagé, restauré, avec beaucoup de goût, avec notre scénographe Emmanuel Sapé à la mairie. Et évidemment, vous avez la charge Saint-Cernin, qui est un lieu absolument, qui est le lieu le plus visité de Toulouse, mais qui est encore susceptible d'être amélioré, on va dire. Mais il ne faut pas oublier que le patrimoine et les monuments, on va dire, sont pour les collectivités locales, notamment la ville de Toulouse, une charge financière, parce que conserver, restaurer, c'est des coûts souvent très élevés. On l'a pas dit, c'est 9,5 millions pour la chapelle de la Grave. On a déjà dépensé plusieurs millions sur Saint-Sernin, on en engage deux de plus. C'est pour les collectivités une grosse charge. Évidemment, l'État nous aide, mais sur le patrimoine classé ou inscrit, mais malgré ça, c'est quand même... à la charge des contribuables toulousains, et c'est pour toutes les communes, qu'elles soient petites ou grandes. Alors on parle souvent de Notre-Dame de Paris, on a vu l'engouement considérable après l'incendie, mais Paris n'est pas seulement la France, donc et dans toutes les collectivités, on a une charge très très importante dans cette conservation, cette restauration.
On sent qu'il y a une vraie volonté de faire revenir les Toulousains dans ces lieux chargés d'histoire et de culture.
Oui, évidemment. Enfin, pardon. Oui, parce qu'on constate toujours. Moi, je croise tous les jours des Toulousains qui ne sont pas rentrés à l'hôtel d'Assesa, dans la cour de l'hôtel d'Assesa. Vous êtes à côté d'Esquirol. Vous êtes. C'est un des lieux les plus accessibles de Toulouse. Bon, idem pour les Jacobins ou même Saint-Cernin. Mais et il faut ajouter à ça que les Toulousains, vous savez qu'il y a énormément de nouveaux Toulousains. C'est-à-dire que Toulouse est une ville qui se développe démographiquement et elle se développe beaucoup par arrivée de gens venus de toute la France ou de l'étranger. Donc il y a vraiment la nécessité de faire venir les Toulousains. Il ne faut pas oublier que l'agglomération toulousaine, c'est 1 million d'habitants, ou plus d'un million d'habitants, étalés sur un grand territoire. Tout le monde n'habite pas à côté des Jacobins ou du Castelet, mais par contre, il faut donner envie. Voilà. Donc il y a un travail de communication, il y a un travail de valorisation permanente, d'animation, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les Toulousains en général, les nouveaux Toulousains et les touristes. C'est-à-dire qu'on voudrait faire aussi de Toulouse une ville de destination. Parce que il est de bon ton de dire je vais passer un week-end à Florence, mais venez passer un week-end à Toulouse pour quelqu'un qui habite à Paris ou à Lyon ou n'importe où.
C'est moins loin.
C'est beaucoup moins loin. Alors c'est peut-être moins comment dire, je sais pas comment le dire. Il peut y avoir un certain snobisme à dire je vais à tel ou tel endroit. Alors moi j'adore Florence, hein, ou bien d'autres villes remarquables. En Italie ou en Europe en général, mais Toulouse mérite vraiment, au même niveau, de venir y passer quelques jours. C'est vraiment une de nos ambitions, c'est faire venir à Toulouse pour le patrimoine, notamment les monuments, mais pas seulement, il y a aussi le spectacle vivant, la musique, la culture scientifique est un des marqueurs majeurs de Toulouse aussi. Donc Toulouse est une ville où on peut passer une semaine, on ne s'ennuie pas.
David Madec, le mot de la fin pour vous, pour convaincre les Toulousains et les non-Toulousains de venir admirer cette belle chapelle de la Grave.
Mot difficile, mais c'est effectivement, il faut y venir pour découvrir ce que soulignait Francis Grasse, l'excellence de cette restauration et comment ne pas entrer dans ce qui semble être l'image d'Épinal de Toulouse.
Ce sera le mot de la fin. Oui, peut-être.
Juste un point que je n'ai pas dit, pardonnez-moi.
Vous pouvez conclure.
On va, pour encore améliorer l'accès à la Grave, on va aussi retravailler l'accès. Actuellement, on passe sous un pont, je ne rentre pas en détail, mais quand vous venez sur le pont Saint-Pierre, on passe devant la Grave. Mais on ne peut pas y rentrer, là. Et donc, on va créer un accès avec un escalier. Il y aura un accès direct à la chapelle de la Grave. Et on va encore plus faciliter la circulation des piétons, des vélos, puisqu'on a testé cet été aussi une piétonnisation qui a bien marché avec piéton-vélo. Donc on travaille sur cette question. Vous voyez, la Grave va encore s'ouvrir dans les prochains mois.
On ne peut que être convaincu. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux, Francis Grasse et David Madec, d'avoir accepté mon invitation. Tout de suite, on retrouve l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Débutons cette Église Actualité avec un parcours proposé par le centre spirituel jésuite Les Coteaux Païs à destination des personnes séparées et divorcées. La première rencontre a lieu au centre Coteaux Païs, 9 rue Montplaisir à Toulouse, entre midi et 17h. Le thème c'est traverser l'épreuve. Ce sera l'occasion de faire connaissance, de partager autour de ce que nous vivons, disent les organisateurs. La rencontre a lieu samedi. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 05 62 71 65 30, 05 62 71 65 30 ou envoyer un mail à secrétariat@coteaux-pays.net. De leur côté, les rencontres Schma proposent de vivre un temps de prière suivi d'un temps fraternel autour d'un goûter partagé. Ce temps de prière a lieu samedi à l'Ermitage Notre-Dame de Selles, à Selles, c'est dans l'Ariège. Information au 06 71 77 33 71. 06 71 77 33 71. Dimanche, c'est la journée Saint-Luc. Elle est organisée par le diocèse d'Auch. Rendez-vous est donné en la cathédrale Sainte-Marie à Auch à 10h30. Renseignements au 05 62 61 91 51. 05 62 61 91 51. Et pour conclure, le diocèse de Pamiers organise une messe d'action de grâce pour l'installation de Mgr Jean-Marc Etienne comme évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. La messe a lieu samedi à 10h30 en la cathédrale de Pamiers. C'est la fin de cette Église Actualité. Rendez-vous lundi pour un nouvel agenda de l'Église dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez d'ores et déjà la retrouver sur notre site internet radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.